Les contes du soir. Nouvelle lune de printemps, et voici le quatrième conte d'une série consacrée aux légendes des cités disparues. Mexico. Certes, la mégapole, capitale du Mexique, existe toujours, mais ses origines mythiques sont bien moins connues. Autant jadis, il existait au Mexique un dieu tyrannique qui se nommait Huitzilopochtli, c'est-à-dire le sorcier oiseau-mouche. Personne n'osait enfreindre ses ordres ni douter de ses oracles, car il se plaisait à prophétiser, annonçant des jours heureux comme on n'en avait encore jamais vu. Qui donc n'en aurait pas rêvé? Et voilà qu'un beau matin, il déclara que les Aztèques deviendraient les plus grands conquérants du monde. Ils se mirent donc en route, quittant le pays d'Aztlan, situé au nord-ouest du Mexique, au sud des États-Unis actuels, où, depuis des temps immémoriaux, cette tribu au teint sombre, aux pommettes saillantes et aux cheveux noirs et lisses, vivait heureuse grâce à la chasse. Le rêve chevauchant avec l'action, elle tenta l'aventure, sûre de son dieu et sûre d'elle-même. Malgré un enthousiasme réel, les choses, croyez-moi, se compliquèrent très vite et les Aztèques connurent de nombreuses déceptions. Au moment où ils cherchaient encore à distinguer leur route, des tribus les attaquèrent. Et des années, des siècles durant, il en fut ainsi. Un jour, enfin, ils arrivèrent à Coloacan, où leur souverain trouva la mort, capturé par l'ennemi. Alors, ils recommencèrent à errer dans des régions montagneuses, peuplées de bêtes sauvages. Certains s'effrayaient et voulaient s'arrêter, mais le dieu Huitzilopochtli exigeait toujours qu'ils marchent et qu'ils se battent. Il arriva un moment où ils purent s'enorgueillir d'être les maîtres d'une mystérieuse vallée aux cinq lacs, vaste et bleu comme la mer, du sommet du mont Chapultepec. Hélas, ce n'était pas encore la terre promise. Et, frappés d'horreur, ils virent une très redoutable tribu guerrière les encercler. Leur roi et sa famille furent faits prisonniers. Cependant, les Aztèques ne s'étaient jamais aussi bien conduits, chacun accomplissait courageusement son devoir de soldat. Alors, par un retournement de situation inattendu, de vassaux, les Aztèques devinrent les alliés de leurs ennemis, ce qui représentait bien une conquête. Mais Huitzilopochtli, loin de s'en contenter, exigeait toujours davantage et ce qu'il promettait valait qu'on y mette le prix. Dans un grand déploiement d'armes, de plumes et de paroles, les Aztèques se remirent donc en marche. Il fallait de nouvelles victoires. Tenaces, procédant par étapes, ils avaient toujours à leur tête leur dieu qui, pour l'heure, avait pris la forme gracieuse d'un colibri. Où les menait-il? Une fois de plus, le chemin qu'il leur montrait se révélait long et plein d'embûches. Pendant un siècle encore, les Aztèques luttèrent, se sentant plutôt diminués qu'accrus par des guerres perpétuelles avec les tribus qu'ils rencontraient. Cependant, leur réserve de patience semblait inépuisable. Ils continuaient donc à croire ferme qu'au bout de cette interminable route, quelque chose de merveilleux les attendait. Et voici qu'un jour inoubliable de 1325, c'était l'été. Il faisait beau. Si la nature était paisible, les Aztèques l'étaient moins, et ils débouchèrent en trombe devant le lac Texcoco, qui, sous la brise, se couvrait de petites vagues. Tous parlaient et se regroupaient, quelques tambours de bois vibraient. Soudain, parti d'on ne sait où, une voix cria « Regardez, regardez, au milieu du lac, sur l'île couverte de rochers !» Comme un seul homme, tous les Aztèques se tournèrent vers l'endroit indiqué. Leurs visages fatigués devinrent aussitôt des visages rayonnants. Un aigle royal, tenant un serpent dans ses serres, s'était posé sur une pousse de cactus. C'était enfin le signe attendu et promis par l'oracle. Sachez que, quelque temps auparavant, Ulzil Plotchi avait en effet parlé au grand prêtre pour lui révéler que son temple et sa cité devraient être construites au milieu des joncs, parmi des roseaux, sur une île rocheuse où l'on verrait un aigle dévorant joyeusement un serpent. Ainsi prirent fin l'existence de nomades guerriers de leur tribu. Pas une construction, pas un toit, pas une barque sur cette île. Les Aztèques s'y précipitèrent. Comme vous pouvez l'imaginer, leur enthousiasme fut délirant. Ces gens, fatigués d'errer et de guerroyer sans cesse, s'enchantaient du paysage calme et bleu de l'île à forme ovale où ils allaient s'installer définitivement. Avec une adresse surprenante, ces hommes de guerre se transformèrent en architectes et en maçons. Pauvrement, misérablement, ils commencèrent à bâtir le temple de Huitzil Plotchi avec des roseaux. Où auraient-ils trouvé des pierres et du bois? Ils vivaient chichement dans leur hutte, et l'un d'eux dit un jour « Achetons donc des pierres et du bois avec ce qui se trouve dans l'eau, le poisson, la grenouille, l'écrevisse. » Ainsi firent-ils. Alors, peu à peu, sortirent, comme par enchantement, des récoltes de céréales sur des flaques de vase, quelques maisons aux toits verts et bleus, et enfin une véritable ville. Cette ville, érigée au milieu du lac Texcoco, là où s'était posé l'aigle, avec ses maisons bâties sur pilotis, reliées entre elles par d'innombrables canaux qu'enjambent des ponts de bois, ces trois chaussées qui la faisaient communiquer avec le rivage étaient superbes, en vérité. Quel nom lui donner ? Bien sûr, celui de Dieu qui avait pris plaisir à conduire son peuple jusqu'ici, Huitzil Plotchi. Il s'appelait également Mexilti. La ville où maintenant s'élevaient à une hauteur colossale les pyramides du temple, d'un beau rouge sombre, fut donc baptisée Tenochtitlan, ou Mexico. Elle devint la capitale du Mexique. Les années passèrent. Quand arriva le XVIe siècle, cette cité était plus florissante que jamais. Si son centre était toujours sur l'île rocheuse, 60 000 maisons alentour témoignaient de son importance. Le dieu Huitzil Plotchi lui-même avait ordonné aux Aztèques de la diviser en 4 parties. Celle du temps, celle des hérons, celle où éclosent les fleurs et l'endroit des moustiques. Presque toutes les maisons étaient entourées d'un jardin dont les fleurs se reflétaient dans le miroir brisé du lac Texcoco. Cependant, une angoisse étouffée commença à remonter à la surface de l'île prestigieuse. On déplorait la perte inexpliquée et mystérieuse de troupeaux entiers. Plusieurs fois, des tremblements de terre s'étaient fait sentir. Il fallut renoncer aux abondantes récoltes de naguère. Et voilà que, soudain, deux temples étaient détruits. Qu'une comète passait en plein jour, qu'une colonne de feu apparaissait au loin et qu'une tempête se déchaînait sur le lac Texcoco. Que signifiaient tous ces mauvais présages? Sur l'immense place du marché, que fréquentaient tous les jours quelques 25 000 personnes pour y échanger tissus, plumes et bijoux, ors et pierres précieuses, maïs, haricots, piments, volailles et gibiers, aussi bien que des esclaves, les inquiétudes se confiaient à mi-voix. Des groupes s'établissaient, formés souvent par le même désir d'étonner et de s'étonner soi-même. « Comment ? » disait-on, « vous ne savez pas ?» Et l'on s'empressait de compter les soupçons qui commençaient à se faire jour. N'était-on pas en présence du dieu Quetzalcoatl ou serpent à plumes ? Or, ce retour signifiait la défaite et la mort de son frère ennemi, Huitzil Plotchi, le dieu de Mexico. Quetzaltoatl aurait en effet prédit qu'il reviendrait un jour au Mexique accompagné d'hommes blancs et barbus. Et voilà que certains affirmaient que des hommes blancs, venus dans des bateaux aussi vastes que des villes, s'installaient le long des côtes, non loin de la vallée de Mexico. D'autres pariaient déjà que les temps étaient venus, tandis que d'autres encore hochaient la tête, incrédules. Ceux-ci aspiraient dans de longs tubes de roseaux, puis la rejetaient par le nez, la fumée bleuâtre du tabac qui leur semblait aussi légère que la rumeur qui les enveloppait. Cependant, la ville continuait à vivre, sans éclat de voix, sans discussion violente. Des équipes de travailleurs assuraient l'entretien des canaux, alors que d'autres transportaient les marchandises sur leur dos ou sur les pirogues, plein d'un calme apparent. Quand les habitants de cette ville ordonnée et salubre payaient leurs achats en fèves de cacao ou en poudre d'or, il semblait à chacun que l'abondance ici ne pourrait jamais cesser de régner. Et cependant, les dieux se taisaient soudain. Quetzalcoatl ne marchait-il pas maintenant sur Mexico ? Il portait une barbe noire et touffue, et son nom, en espagnol, était Cortés. Voilà ce que disaient, et de plus en plus, les Aztèques, convaincus de l'identité de Cortés avec le dieu redoutable, le dieu serpent à plumes. Bientôt, le bruit courut qu'il n'était plus qu'à 100 km de la cité légendaire, suivi de son armée. Le 8 novembre 1519, il traversait la lagune sur la chaussée qui reliait la côte à la cité lacustre. Le roi des Aztèques, dont le palais avait des murs de porphyre et de jade, des plafonds de bois sculptés et des parquets de cyprès, vint l'accueillir, accompagné de nombreux dignitaires. Près de ce palais se trouvait un arsenal garni d'armes, frondes et massues aux lames d'obsidienne. Pendant 8 mois, le roi de Mexico fut en quelque sorte prisonnier des conquérants espagnoles. Mais la tension montait au fur et à mesure que l'occupation se prolongeait. Comment les Aztèques, humiliés, atterrés, pillés, terrorisés, qui virent leur dieu, oui, leur dieu, Huitzilpochtli, renversé, ne se fussent-ils pas servis de ses armes pour se révolter ? Le 30 juin 1520, des milliers et des milliers d'Aztèques défilèrent, résolus à chasser l'envahisseur. Ils y réussirent d'abord, et les javelots et les flèches d'obsidienne obscurcirent le ciel. Hélas, leur roi périt au cours des combats, et son successeur portait un nom qui faisait frémir, l'aigle qui tombe. Assiégés dans leur ville durant 75 jours, privés d'eau potable et de vivres, malgré leur héroïsme, les habitants de Mexico durent se rendre le 13 août 1521. Des 300 000 qu'ils étaient, il ne restait qu'une poignée, à peine quelques milliers. Quant à la ville elle-même, elle n'était que ruines et décombres. Une cité entièrement nouvelle fut construite à l'emplacement de celle dont il ne restait rien qu'un paysage et une légende. Prochain conte le 4 juin 2023 pour une pleine lune de printemps. Nous écouterons le premier épisode d'une nouvelle série consacrée aux légendes des Indiens d'Amérique. D'ici là, pour me soutenir, trois moyens s'offrent à vous. Vous pouvez noter et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi me rejoindre et partager les contenus sur les principales plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez enfin me soutenir sur la page Tipeee des Contes du Soir, où vous attend du contenu exclusif avec des textes érotiques. Tous les liens sont dans la description. Les Contes du Soir est un podcast à histoire. Il investit dans vos cœurs et dans vos oreilles le monde de l'imaginaire.